attendre la fin de l'action pour voir si ça a marché ou pas, quoi. Ou, il faut qu'on ait une évaluation au bout de 2 ans minimum pour voir où on en est et pouvoir réorienter les budgets si nécessaire.
Alors je précise juste que cette action n'était pas uniquement l'action du CAVL, c'est une action partenariale avec le conseil départemental, la CAF.
C'est ce qui m'est venu à l'esprit.
Donc le CAVL a servi de porteur, mais les agréments sont délivrés par la PMI et donc le CAVL n'est pas responsable du fait que personne n'ait pu émarger sur cette qualification. Et puis juste préciser aussi que le document est présenté suivant une formulation que souhaite la CAF. Et donc on a répondu à la demande de la CAF sur l'aspect présentation. Après, je partage que c'est un projet ambitieux qui touche les publics les plus fragiles et sur lesquels il faut des évaluations régulières effectivement pour réactiver ou réactualiser les actions sans attendre l'échéance du contrat. Et ça, je pense qu'on en est bien conscient.
On a quand même des actions qui précédemment... Et c'est pas, je ne suis pas dans la critique parce que c'est très compliqué à mettre en place. Les suivis, c'est très compliqué. On a eu la période du Covid. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire des 5 dernières années sur Guéret. Mais il y a des actions, je pense au Jardin du Commun. Enfin, je pense à certaines actions avec les Jardins du Commun, la mise en place de certaines choses qui ne se sont pas faites ou mal faites. Enfin, qui demandent un peu plus de suivi régulier sur des objectifs précis. Après, on les garde, on les garde pas, on continue pas, ça c'est encore un autre débat et je voulais pas rentrer dans celui-là.
Oui, monsieur Gargani.
Oui, je me permets d'intervenir parce qu'effectivement, le... Oui, il rigole, François. Parce qu'en fait, ça a été très long, la naissance quand même d'Anima. Ça a été très très long, il y a eu plusieurs tentatives avortées. Bon, la précédente municipalité l'a remis, effectivement, et a tout fait pour que ce projet vive, que la structure se crée, avec un accompagnement et une forte poussée aussi des services de la CAF. Voilà, donc effectivement, je suis très content, moi, que cet espace de vie sociale continue de vivre et a de nouveaux projets, des projets ambitieux, des projets intéressants. Je me joins aussi effectivement à Faouzia et à Madame le maire pour féliciter les équipes donc de ce projet en partenariat avec la CAF entre autres. Et puis je les excuse aussi, par rapport effectivement au dossier qui peut être lourd, administratif, mais effectivement ça fait partie tous les 4 ans des contraintes, des exigences administratives qui sont posées par notamment la CAF pour pouvoir renouveler l'agrément, et c'est un renouvellement d'agrément extrêmement fondamental, hein, puisque les financements de la CAF sont extrêmement importants. Voilà, donc ça vaut bien un petit rapport, peut-être un petit peu touffu. Voilà, j'excuse les services de ce rapport, mais au moins tout y est, tout est écrit, tout est formalisé, et donc c'est aussi extrêmement important de pouvoir poser par écrit les objectifs ambitieux de la structure pour les prochaines années. Voilà, je vais passer la parole à Faouzia.
Alors, moi j'accepte les critiques, bien au contraire. J'aime vivre avec les critiques, ça me permet d'avancer et ça nous permet d'avancer. Effectivement, peut-être qu'il y a certains projets qui ont peut-être pas été évalués assez régulièrement, peut-être, mais les équipes s'attachent à chaque action. Par exemple, pendant les étés, pendant les vacances, toutes ces actions-là, les actions comme j'aime mon quartier, j'aime ma ville, les équipes s'attachent très régulièrement à faire des comptes rendus et à faire une évaluation de l'impact que ça a pu avoir avec les habitants. Et oui, ce sera peut-être quelque chose à retenir pour l'avenir, à faire un peu plus de bilan de toutes les actions qui peuvent avoir encore plus d'impact sur les personnes. Après, oui, effectivement, ce projet est un petit peu touffu, il n'y a pas de souci, moi je l'entends très bien, mais voilà, on voulait montrer vraiment l'investissement des personnes, surtout parce que même si ce projet, c'est nous, enfin on l'a écrit, c'est aussi, ça vient des besoins, ça vient des échanges qui étaient nourris par les institutions qui sont autour de nous, par les familles qui agissent lors des conseils d'exploitation avec beaucoup de questionnements, beaucoup de pertinence. Et j'aimerais que dans ce projet, ça soit ça en fait qui ressorte le plus. L'investissement de chacun et l'engouement de chacun à vouloir aller plus loin pour pouvoir proposer quelque chose encore et encore à toute la ville de Guéry. Voilà, merci.
Je voudrais juste souligner que par rapport aux actions, justement, l'avantage, ce qui est le point qui est vraiment positif, c'est que chaque fois, les équipes se remettent vraiment en question pour essayer d'aller piocher et de savoir pourquoi cette action, elle ne fonctionne pas. D'où ça vient, sans dire on va forcément arrêter l'action. Donc il n'y a pas d'abandon, il y a voilà un état des lieux, enfin c'est vraiment un état des lieux à chercher à comprendre pourquoi cette action elle fonctionne pas, donc à cause de plein de facteurs, mais il y a cette idée quand même où chaque fois ils cherchent à trouver pourquoi l'action fonctionne pas et justement pour la fois d'après et ben mettre les choses en œuvre pour la faire fonctionner ou éventuellement l'abolir, enfin entre guillemets, mais il y a tout le temps cette démarche d'essayer de comprendre. Et je trouve que c'est très positif et très constructif.
Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Bien. Moi, je voudrais souligner la reconnaissance que Anima a entre dans le quartier politique de la ville, où les équipes sont extrêmement bien intégrées et où elles font partie complètement de la vie du quartier. Elles ont créé vraiment un climat de confiance. Et c'est une vraie réussite. Bien, je soumets donc ce projet à votre approbation pour qu'on puisse le transmettre à la CAF. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Monsieur Pingot, l'espace Fayol et les séances découvertes.
Alors, dans le cadre des actions sociales culturelles de l'espace Fayol et afin de promouvoir le lieu, il est proposé d'offrir 2 séances découvertes à tous les habitants domiciliés sur le département de la Creuse, sur chaque activité municipale, à savoir la danse et le dessin. Ces séances doivent être utilisées de manière consécutive. Elles seront valables de septembre à mars sur l'année en cours, puisqu'il n'y a pas de nouvelles inscriptions entre avril et juin. Afin d'informer la population, une communication pourra être effectuée sous forme de flyer et diffusée sur le plus largement possible. Aussi, au vu de ce qui précède, il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer favorablement à la proposition présentée ci-dessus.
Juste préciser peut-être que cette facilité est réservée aux Creusois.
Oui.
On ne l'a pas précisé.
C'est aussi sur tous les habitants du département. Voilà.
D'accord.
On a voulu élargir.
Tous les habitants domiciliés sur le département, pardon.
Voilà, c'est moi.
Est-ce qu'il y a des questions dehors de la corrida ? Pas de questions ? Donc, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. L'association Creuse Animation.
Alors, l'association Creuse Animation a proposé, comme depuis plusieurs années, l'événement Forêt Folie, ce qui a eu lieu le 10 et 11 septembre 2022, regroupant de nombreux stands et activités diverses. Le vendredi 9 septembre 2022 a eu lieu, en complément du festival Forêt Folie, l'événement Guéret en Feu, toujours géré par Creuse Animation, afin d'ouvrir le festival. En vue de ces festivités, il avait été mis en réserve la somme de 3000 euros. Aussi, au vu de ce qui précède, il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer favorablement sur l'attribution à Creuse Animation d'une subvention exceptionnelle fixée à 3000 euros. Je tiens, avant toute question, je tiens juste à rappeler que ça a été une animation qui a rencontré un franc succès, que tous les spectacles proposés étaient gratuits et ouverts à tous.
Oui, il y a eu un monde fou en ville. Alors, vous dire que le budget total de l'action est de 13 000 euros. Donc, voilà, c'est Guéret Animation a pris en charge, Creuse Animation a pris en charge une très, très grosse partie de cette animation. Avez-vous des remarques ou des questions ? bien. Y a-t-il des...
Non, mais pardon.
Pardon, excuse-moi.
Oui, non, c'est rien. J'ai juste une question. Est-ce qu'on a un rapport moral et financier de cette association, compte tenu du montant des budgets qu'elle manipule, de l'importance de l'événement que représente Forêt Folie?
Non, on n'a pas encore les bilans ni financiers ni moral, mais après on pourra vous les transmettre des questions.
Oui, en fait c'est très récent, tu sais, c'est Creusox qui l'année dernière donc a fait le premier Guéret en feu et s'est dit qu'il était plus régulier de séparer l'activité sportive de Creusox et l'activité animation, ce qui me semble être une excellente idée. Donc en fait c'est tout nouveau, c'est la première fois qu'on travaille sous le régime Creus Animation. Par contre cette année la demande de subvention va être faite suivant notre processus réglementaire, et là l'association devra fournir tous les documents réglementaires concernant ses statuts, son bilan financier, etc. Mais c'est la première année qu'on peut le faire, puisqu'en fait c'est tout récent. Voilà. Mais je crois que c'était une très bonne idée de séparer l'aspect sportif et l'aspect animation et créateur d'événements. C'était beaucoup plus clair sur l'aspect budgétaire, d'autant plus qu'on a des sponsors aussi. Guéret en feu a, entre autres, été aidé par la société Chaptard, par le Crédit Agricole et d'autres. Donc, il était bon de ne pas mélanger ces financements avec ceux du club sportif. Donc, je pense que c'était une très, très bonne chose.
Oui, enfin, je vous interpelle à ce sujet parce qu'on pourra être amené ultérieurement à remettre en question un certain nombre de subventions qui sont versées par d'autres sur d'autres types d'événements sur lesquels, à titre personnel, j'aurai l'occasion de m'interroger. Et je présage déjà des remarques qui pourraient être faites quant au bilan que nous demandons nous-mêmes, quant au rapport que nous demandons moraux et financiers que nous demandons nous-mêmes aux associations que nous subventionnons.
Bien, donc ça, on l'aura pour les subventions 2023, oui. Puisqu'on rentrera dans le dispositif réglementaire des subventions pour cette association toute nouvelle. Y a-t-il des oppositions pour cette subvention de 3000 euros? Des abstentions? Merci. Pardon, une abstention. C'est bon pour le service? Musée d'art et d'archéologie, le fameux récollement décennal des collections.
Alors, en application de la loi du 4 janvier 2002 relative au musée de France et de la circulaire du 27 juillet 2006 relative au récollement décennal des collections auxquelles procède le musée d'art et d'archéologie, il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver le procès verbal de recollement clôturant la campagne 2022 ainsi que l'avenant au plan de recollement 2008 si annexé. Ceci récapitule la méthodologie, les personnels ainsi que les résultats des opérations de recollement.
Donc vous avez en annexe.
Vous avez tous les documents en annexe. Voilà, le travail est loin d'être terminé, mais est déjà bien avancé.
Est-ce que vous avez des questions sur ce dispositif? Non. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc, la convention relative au dépôt d'œuvres du conseil départemental.
Alors, propriétaire de 3 tableaux actuellement conservés dans les lieux inaccessibles au public et dans l'attente de disposer d'un lieu d'exposition, le conseil départemental souhaite les déposer au musée d'art et d'archéologie de la ville de Guéret afin de les mettre à la disposition de tous, soit dans le futur parcours permanent, soit lors d'expositions temporaires. De fait, le conseil départemental a programmé une campagne de restauration de ces œuvres avant leur dépôt. Ces tableaux viennent compléter les collections du musée, notamment dans le domaine de la peinture de paysage, avec l'œuvre d'Ernest Victor Hareux, pêcheur à l'épervier sur la Cédelle, huile sur toile datée de 1909. Le musée possède en fonds propres des œuvres de cet artiste. Fidèle au site de Crozon jusqu'à la fin de sa vie, M. Hareux appartient au groupe des précurseurs des peintres de la vallée de la Creuse. Le sujet abordé ici, la pêche au filet nommée épervier, fait écho à une œuvre conservée au musée. Cette œuvre monumentale en plâtre de la main du sculpteur Camille Alaphilippe sera présentée dans le futur hall du musée. Les deux autres tableaux datent de la première moitié du XXe siècle et témoignent d'un courant pictural attaché à représenter, à représenter le mode de vie des campagnes en cours de mutation à cette période, en intégrant la figure humaine et les labeurs au centre du paysage. Fernand Maillot, très présent dans les collections du musée, témoigne de ce thème en représentant les scènes de moisson des figures paysannes creusoises et berrichonnes dans leur activité. Les œuvres des peintres Louis Azéma et Marcel Coucy, ou Couki, je ne sais pas, du conseil départemental témoignent dans un langage pictural différent de la même problématique que M. Maillot. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver ce dépôt et d'autoriser Madame le maire à signer une convention de dépôt ci-jointe avec le conseil départemental pour 5 ans, dont la liste est ici annexée.
Y a-t-il des questions ? Non. Donc des oppositions, des abstentions ? Merci. Après, on a le prêt de 2 spécimens d'histoire naturelle.
Oui. Le musée La Banche de la ville de Brive organise du 14 janvier au 17 septembre 2023 une exposition temporaire mettant à l'honneur les collections d'histoire naturelle et plus particulièrement des œuvres associées au cabinet de curiosité. Dans le cadre de cette exposition, la ville de Brive a sollicité le prêt de 2 spécimens du musée d'art et d'archéologie de Guéret. Il s'agit d'un agneau à 2 têtes et d'un cochon de Siam à 6 pattes. À l'image du musée d'art et d'archéologie de Guéret, le musée La Banche possède une vaste collection de sciences naturelles. Toutefois, il n'abrite pas de spécimens présentant des malformations et ainsi sujets à curiosité et singularité. L'état de conservation des 2 spécimens du musée de Guéret permettrait leur prêt. Les conditions d'exposition du musée La Banche concourraient à la bonne conservation et à la sécurisation des œuvres. Les frais de transport et d'assurance seraient à la charge de la ville de Brive. Par ailleurs, ce prêt d'œuvre demandé durant la fermeture du musée et les travaux de restructuration s'inscrirait dans la continuité des actions menées en faveur de la valorisation et l'accessibilité des collections vers un public le plus large possible. La présente convention a été transmise par la ville de Brive. Elle a pour enjeu de présenter et préciser les conditions du prêt. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser ce prêt et Madame le maire a signé la convention s'y annexée.
Des questions sur notre mouton à 6 pattes ? Non ? Bien. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Qu'on qualifie ça d'œuvre, c'est un peu particulier.
C'est une curiosité.
Alors, la guérétoise de spectacle, tarif des sorties, une sortie culturelle.
Alors, sortie culturelle, dans le cadre de sa programmation, la guérétoise de spectacle organise une sortie culturelle en bus le 9 mai 2023. Les spectateurs se déplaceront au théâtre Jean Lursa d'Aubusson pour assister au spectacle Tumulte de la compagnie Vilcanota. Les tarifs appliqués à cette sortie sera de 12 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver ce tarif exceptionnel.
Bon, chaque année, la Guérétoise fait une sortie sur Jean Lursa. Donc, avez-vous des remarques, des questions ? Bien, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Les interventions extérieures au sein d'établissements pour le musée ?
Oui, durant la fermeture du musée et les travaux de restructuration, une volonté particulière est portée sur la valorisation et l'accessibilité des collections vers un public le plus large possible. Pour cela, le service des publics a créé des dispositifs de médiation nomades sous forme de mallettes pédagogiques qui peuvent être transportés et présentés dans des structures telles que les écoles, les maisons d'arrêt, l'EHPAD, l'accueil de loisirs notamment. Le musée a été sollicité pour intervenir au sein des établissements suivants, l'IME de Granchet, le CESAD de Bourganeuf, l'hôpital de jour pour enfants de La Souterraine. Ces interventions étant pour certaines à l'extérieur de la ville de Guéret, il est proposé que ces dernières fassent l'objet d'une tarification à hauteur de 60 €, comprenant les frais kilométriques, les coûts du matériel utilisé lors des ateliers de création plastique et la prestation de la médiatrice culturelle. Afin de faciliter la gestion de ces demandes, il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer favorablement sur le principe de ces interventions extérieures, de valider la convention type annexée à la présente et d'autoriser Madame le maire à signer les documents à intervenir.
Alors les 60 euros, c'est parce que quand il y a des interventions dans un lycée, le tarif DRAC est à 60 euros, donc on s'est servi de base pour pouvoir poser un chiffre.
C'est ça.
Avez-vous des... Oui, Monsieur Vallès.
J'entends bien que le musée fasse profiter de ses collections les extérieurs du musée, c'est-à-dire sur les communes alentours, les différentes associations, les EHPAD, les intervenants. Il m'apparaît quand même que les collections du musée devraient déjà permettre d'être vues au musée, quoi. Alors j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va enfin avoir une ouverture depuis les travaux qui ont commencé depuis une éternité dans ce musée.
J'avais prévu un point, parce qu'on va parler budgétairement là, de la rallonge pour le musée.
Je m'attendrai à ce moment-là, je la remettrai à ce moment-là.
Mais je peux le faire tout de suite, hein, il n'y a pas de problème. Si la question
non, parce qu'on posée... se trouve encore tributaire d'un musée qui est fermé depuis une éternité.
Absolument.
On a des collections qui sont... Alors moi, les animaux farfelus, je les connais de toute éternité au musée, il y avait une salle rien que pour ça. On y allait tous quand on était enfant, elle était bien cette salle. Il y a des monstres. On a un petit musée département qui aurait une vocation à mon avis départementale et pas municipale, qui est intéressant. Je vois que le musée fait des efforts avec ses personnels pour essayer de sortir un peu les collections du musée, mais néanmoins il serait quand même temps que le... On est tributaire de chantiers qui commencent à durer, quoi.
Je remets pas en cause la question. Je précise juste qu'en fait les œuvres ne sortent pas du musée et que en fait c'est la présentation d'œuvres via des mallettes pédagogiques. Il n'y a pas d'œuvres, beaucoup trop compliqué d'amener des œuvres dans des établissements. Donc en fait c'est la valorisation de l'œuvre via des mallettes et pour sensibiliser le plus large. Mais je remets pas, j'ai rien contre cette question. Je suis même plutôt d'accord, parce que j'aimerais aussi, comme tout le monde, que le musée ouvre le plus tôt possible.
Alors, la livraison du bâtiment, elle est envisagée à la mi-janvier 2023. Donc, les déménagements des personnels du musée dans la partie bureau et surtout le transfert des œuvres dans les nouvelles réserves, alors bien sûr avec toutes les précautions nécessaires, vont nous demander environ 6 à 7 mois avant d'engager la fin de la déconstruction du bâtiment de la Providence. Une partie, on va garder une partie de ce vieux bâtiment pour y loger donc les services, les agents du service qui sont dédiés à l'entretien du jardin public, et on va abattre le reste. Il y aura après la construction du parking visiteur pour environ 5 mois avant d'engager la réfection de l'avenue de la Sénatorerie à la suite donc des travaux de reprise des réseaux de la rue. Donc vous voyez qu'on se projette sur quasiment toute l'année 2023, et ne pas oublier qu'ensuite, eh bien, il faut qu'on commence les travaux sur l'ancien musée pour lequel rien n'avait été prévu quand les travaux du nouveau musée ont été lancés. Donc, vous dire aussi que la fin du chantier, elle est difficile parce que on a un petit peu de soucis avec les entreprises. Il y a des absences aux réunions de chantier, il y a des difficultés de planification. La liquidation de l'agence bureau nous a posé beaucoup de soucis. On a des surcoûts qui sont liés à des défauts de conception de l'ouvrage, à l'oubli de certaines prestations, à la reprise de malfaçon des travaux qui avaient été exécutés par l'entreprise Luro, à l'augmentation de l'actualisation des prix prévus, bien sûr, avec dans le contexte actuel, alors une estimation d'environ 105 000 euros de surcoût, des honoraires complémentaires de maîtrise d'œuvre, l'augmentation des prix des matériaux et des fournitures qui induisent des demandes d'indemnisation au titre de ce qu'on appelle la théorie de l'imprévision et qui nous est donc demandée par les entreprises, estimation d'environ 95 000 euros. Et puis donc l'obligation de mise en tension définitive donc du bâtiment, alors ça ne nous a pas arrangé parce que on aurait souhaité pouvoir la remettre un petit peu dans le temps, mais ça mettait en danger la préservation des œuvres dans la réserve Henri, et donc on a été obligé de souscrire un abonnement qui est de 15 à 20 fois supérieur au prix du marché. Voilà. Donc, si tu veux préciser, Henri, tu le feras. Mais donc, vous dire que l'opération, tout au début, pour ce projet de musée était estimé à 5,7 millions à peu près, et que là on va dépasser les 6,6 millions. Et on a en outre le vieux musée à restaurer, et on avait, pour les premières évaluations, on était à hauteur de 1,2 millions à peu près, mais avec l'augmentation de tous les tarifs, on va dépasser ce chiffre-là. Voilà, donc, bon, un musée nouveau qui va s'étaler sur l'année 2023 avant de pouvoir être mis en route, mais de toute façon, il est impossible d'accueillir le public tant que l'ancien musée n'est pas rénové. Donc, l'accès au public des œuvres, comme le demandait François, va demander beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'il n'est pas évident qu'on ait l'année prochaine la possibilité d'investir très, très rapidement sur cet ancien musée. Peut-être qu'il va falloir découper l'investissement en tranches. On va le décider ensemble quand on aura fait notre évaluation budgétaire pour 2023. Mais voilà, on est dans une situation quand même un petit peu ubuesque avec ce dossier du musée.
Entendons-nous bien, je n'ai encore une fois aucune critique par rapport au travail effectué, au travail de suivi, au travail de Henri, de toi, et des ateliers.
Mais il n'est pas mis en cause.
Des services, où il n'y a aucune remise en cause. Je constate juste qu'avec un chantier qui aurait dû durer de l'ordre de 2 ou 3 ans au départ, c'est ça ? Même pas. On va arriver à plus de 6 ans. Hein, on essaie d'aider à peu près les eaux, Henri. On n'est pas au bout, on est encore plus pessimiste que moi.
La réouverture de ce musée, elle est vraiment assujettie aux travaux qui ne sont toujours pas ni prévus, ni commencés, ni budgétisés. Donc on ne sait pas, hein. Là franchement, c'est pour l'instant, c'est très très incertain.
Moi, je voudrais juste préciser par rapport à ce que tu as dit, que les équipes et Henri sont sur le sujet sans arrêt, parce qu'il faut sans arrêt être sur le terrain, coacher les équipes, négocier, parce que notre directeur des services techniques n'arrête pas de négocier avec les entreprises, et c'est un travail qui polarise les équipes d'une façon...
Mais c'est rien qu'en tant que travail au sein de notre mairie, si on fait le coup et qu'on le rajoute auprès du musée, ça devient énorme. Ce que je veux juste dire, moi, c'est que pour des gens qui se permettent de critiquer nos politiques et qui lancent des dossiers aussi importants que la rénovation du musée dans un tel foutoir, qui vont laisser les œuvres qui sont censées être d'accès culturel pour les enfants, pour les écoles, etc., pendant 6 ans, ça sera peut-être plus inaccessible, je trouve que certains devraient des fois la mener un peu basse, la marche.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ?
Oui, juste parce que moi, cette histoire de... Enfin, le musée de Guéret, c'est une structure qui m'interroge quand même depuis très longtemps. C'est un point d'attractivité, notamment touristique. Et je pense que comme tout lieu touristique, il devrait avoir une identité forte. Alors, musée d'archéologie, ok. Musée d'art, lesquels ? Et d'archéologie, ça me semble bien confus. Et je pense qu'il faudra s'interroger à un moment donné sur l'identité que nous voulons donner à ce musée pour qu'il constitue véritablement un pôle d'attractivité. Et si j'en crois le caractère particulièrement varié des œuvres qui sont conservées par ce musée, j'en déduis qu'il n'a pas de réelle identité, ne serait-ce qu'au travers des œuvres que l'on vient d'évoquer. Il y a de très beaux tableaux, il y a ces fameuses curiosités, mais concrètement, il est quoi ce musée ? J'ai entendu il y a quelque temps, dans un conseil municipal précédent, l'un des élus qui a été très ponctuellement présent, se targuer du nombre d'œuvres considérables que nous avions en conservation dans ce musée. Si on veut vraiment faire œuvre culturelle, à quoi bon disposer de toutes ces œuvres si, indépendamment des travaux de restructuration, mais dans l'état dans lequel se trouvait le musée préalablement, si nous ne nous sommes même pas en situation de les exposer au public. Si vraiment c'est la culture que nous défendons, alors au mieux, donnons ces œuvres. qu'elle soit donnée à des musées qui sont en situation de les mettre à disposition du public. Moi, vraiment, il y a toute cette problématique de travaux, mais je m'interroge depuis très longtemps sur l'existence de ce musée, son attractivité, son identité, ce à quoi il nous sert, ce que nous voulons en faire. Je serais curieux de savoir concrètement combien tout cela coûte, en sachant que même si on reste dans la politique culturelle, encore une fois, tout ce qui est dépensé ici n'est plus disponible pour d'autres actions. Et je m'intéresse vraiment sur, entre guillemets, l'efficience de toutes les dépenses culturelles autour de ce musée au regard de ce que ça apporte véritablement à la population en matière culturelle. Voilà. Alors, encore une fois, moi, je n'ai une connaissance que très superficielle du contenu de ce musée, de sa gestion, de sa fréquentation, etc. Mais c'est clairement un dossier qui m'interroge depuis assez longtemps.
Alors, je pense que le pari qui avait été pris, c'était effectivement de se dire que ce musée pourrait être un pôle d'attractivité pour Guéret. Après, je pense que tu as raison sur le fait que les œuvres sont multiples. On a de l'archéologie, on a de la faune, on a de... par contre, je crois que notre conservatrice s'attache, depuis qu'elle est là, à mettre en avant et à récupérer des œuvres qui sont des œuvres du patrimoine local. C'est-à-dire que on a le bas-relief qu'on a acheté il y a très peu de temps aux enchères venait donc de la région Bourganeuf. Les peintres sur lesquels elle insiste beaucoup, ce sont des peintres de Crozon ou des peintres locaux comme Fernand Maillot. Et je pense qu'elle est très attentive à développer l'aspect culture locale pour la mettre en exergue dans ce musée. Après qu'on ait, après des œuvres qui restent et qui ne soient pas tout à fait liées à cette identité et qu'on s'interroge sur ce qu'elles vont devenir, il ne faut effectivement pas qu'elles restent dans une réserve et qu'elles n'en sortent plus. Donc ça, c'est effectivement un travail qui se fera à ce moment-là avec la conservatrice. Mais c'est vrai que c'est un musée qu'on qualifie de très riche, mais qui peut aussi peut-être être qualifié par certains d'anarchique, parce qu'on a du mal à lui trouver une identité. C'est un musée qui recèle des trésors et il va falloir effectivement voir comment les organiser. Alors moi, j'avais posé la question aussi, qui était la suivante. Est-ce qu'une collectivité, surtout de la taille de la nôtre, peut se permettre de porter un musée qui est un musée national, puisque justement, on y trouve de tout. Et on m'avait bien spécifié qu'effectivement, quand j'étais allée à la DRAC, ce type de musée devait ressortir du département et de l'agglomération. C'est même pas la peine que je pose la question, donc j'ai remis la question dans ma poche. Mais en tout cas, ce musée ne devrait pas être un poids pour une ville comme Guéret et devrait être géré à une autre dimension, puisqu'il est d'intérêt non seulement communautaire, mais départemental. Voilà. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres remarques sur le musée, d'autres questions ?
Oui, une remarque, oui, par rapport au musée. Donc c'est vrai que par rapport au musée, on a subi pas mal d'inconvénients, hein, effectivement, qui ont retardé effectivement les travaux. Moi, je voudrais revenir quand même sur l'histoire de la partie ancienne du musée. On l'a déjà abordé, mais j'insiste là-dessus. Rien n'avait été prévu au budget pour rénover la partie ancienne du musée. Hein, autant on avait prévu plusieurs millions d'euros pour agrandir le musée avec une partie moderne, mais pas un seul centime n'avait été budgété par nos prédécesseurs pour rénover la partie ancienne, hein, avec les fissures qu'on peut constater, l'état des salles telle qu'elle est, qui sont dans leur jus parfois depuis on ne sait combien d'années d'ailleurs. Voilà, et rien n'était prévu. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait eu un musée avec une partie ultra moderne, et puis on rentrait donc par cette partie, et ensuite on allait dans la partie ancienne du musée où rien n'était prévu en termes de rénovation. Donc ça, c'est quand même un petit peu aussi scandaleux, hein. Donc nous, de mémoire, on a dû évaluer la rénovation de la partie ancienne à plus d'1 million d'euros. Voire peut-être même 1 200 000 euros. Donc ça, c'est nous aussi qui devons le budgéter, hein, parce qu'il est hors de question, bien évidemment, qu'on ouvre un musée avec une partie entièrement moderne et une partie ancienne pour laquelle il n'y a eu aucune rénovation. Enfin, le contraste aurait été trop fort entre les deux et le public ne comprendrait pas non plus qu'on rénove, qu'on agrandisse un musée sans rénover la partie ancienne. Alors je me rappelle que on nous avait répondu oui, mais la rénovation de la partie ancienne se fera dans le cadre des travaux en régie. Donc ça, je me rappelle, c'était notre ami Monsieur Correa qui nous avait évoqué effectivement cela, sauf que les travaux en régie, c'est entre 400 000 et 500 000 euros par an. On voit que quand même il faut prévoir 1 200 000 euros pour rénover la partie ancienne, et surtout, dans les travaux en régie, il y a l'entretien des écoles aussi. Voilà, donc j'aurais bien aimé poser la question, mais ils ne sont plus là, malheureusement, sur les contradictions qu'il peut y avoir, effectivement, à être vent debout lorsqu'il s'agit, effectivement, de la question des écoles, de l'entretien, etc., et en même temps, de nous invoquer des travaux en régie qui, s'ils avaient été mobilisés de manière forte pour rénover la partie ancienne du musée, l'auraient été au détriment de l'entretien du bâti communal, dont les écoles.
Juste spécifier que en plus on ne peut pas accueillir le public dans l'ancien musée puisque notre cabinet a diagnostiqué une faiblesse des planchers dans les salles d'exposition qui donc mettait en péril les visiteurs. Donc en dehors des travaux en régie, on a un musée dans lequel on ne peut pas rentrer actuellement. Voilà. Bien, donc on n'a pas mis aux voix le rapport de Monsieur Pingot. Donc sur les interventions extérieures au sein de différents établissements, avez-vous des oppositions, des abstentions? Merci. Madame Tondouf, proposition de tarif pour Noël.
Oui, donc la ville de Guéret mettra en place deux actions complétant les illuminations pour les fêtes de fin d'année, à savoir le marché de Noël du vendredi 16 décembre 2022 au dimanche 18 décembre 2022. Place du marché avec l'installation donc d'une patinoire de 162 mètres carrés sur l'esplanade François Mitterrand du 16 au 31 décembre 2022 de 14h à 20h, sauf les 24 et 31 décembre où ce sera de 14h à 18h. Le marché de Noël accueillera 15 chalets équipés d'éclairage standard ainsi que des tonnelles qui seront mises à disposition pour des demandes ponctuelles d'exposants sur la journée seulement du samedi 17 décembre 2022. La gratuité sera accordée aux associations municipales et donc il est proposé aux membres du conseil d'adopter les tarifs ci-dessous inchangés par rapport à l'année dernière. Donc sur les entrées, voilà, des enfants, des adultes, on a conservé le même tarif. Et donc pour le marché de Noël, idem, les chalets pour 3 jours, forfait de 90 euros. Et non, c'est par jour, pardon. Non, c'est pour 3 jours, non, c'est pour les 3 jours. Et la mise à disposition d'une tonnelle pour un jour, voilà, à 10 euros. Donc petite précision, comme l'année dernière également, les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de Guéret bénéficieront d'une entrée gratuite sur présentation d'un ticket qui leur sera distribué dans leurs établissements scolaires.
Est-ce que vous avez des questions sur le marché de Noël ou sur M. Delettre?
Oui, alors je ne devrais pas avoir des questions sur ce dossier-là, mais c'est vrai que j'ai été, pour des raisons personnelles, un peu absent des affaires de la municipalité, y compris celle du cœur de ville ces derniers temps. L'année dernière, on était parti sur une mise à disposition de chalets pour 3 jours ou rien. Et il avait été évoqué, ou même en cours de processus, on s'était aperçu que finalement il y avait des exposants qui étaient OK pour une journée, mais pas nécessairement pour 3, non, notamment parce qu'ils peuvent être pris par ailleurs sur d'autres marchés. Et il me semble avoir entendu, en discutant avec un certain nombre de ces futurs exposants, que certains d'entre eux avaient fait une réservation pour une seule journée. Alors est-ce que ce dispositif finalement, de possibilité de louer sur un jour, sur 2 jours ou sur 3 jours, a effectivement été mise en place ou pas?
Alors, on a eu beaucoup de demandes pour occuper les chalets. Et du coup, ben, c'est vrai qu'on s'est permis, parce que c'était un vrai casse-tête, parce que effectivement, on avait des demandes que sur une journée, mais on se retrouvait avec des journées communes. Et finalement, et ben, par exemple, le vendredi, pas grand monde. Donc en fait, on a recontacté les personnes qui nous avaient précisé sur la demande écrite qu'elles ne souhaitaient participer que pour une journée, en leur expliquant que ça rentrerait dans les critères de choix et que les personnes qui se mobiliseraient pour les 3 jours seraient prioritairement choisies. Et en fait, ça a eu l'effet que les personnes qui ne souhaitaient qu'une journée se sont finalement débrouillées pour être présentes les 3 jours.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, vous dire que beaucoup d'efforts ont été faits pour la patinoire, par exemple, puisqu'on a diminué le coût de 10 000 euros en se passant d'intermédiaire. Les services ont beaucoup travaillé pour diminuer la facture. De même que sur les illuminations, on va avoir gagné 15 000 euros. Là aussi, en travaillant sur la mise en place, sur le périmètre et sur la durée d'exposition des illuminations. Donc on a voulu absolument garder un Noël pour les enfants, parce que la période est triste. Certains enfants auront des Noëls qui seront un petit peu tristounés. Donc on a souhaité vraiment que les enfants, pendant toute la période des vacances scolaires, puissent avoir des animations sur le marché de Noël. Il y aura une foule d'animations. Et sur la patinoire, pendant 15 jours, avoir des prix, des tarifs tout à fait accessibles et puissent passer de bonnes vacances de Noël. Donc on a fait vraiment un très très gros effort sur les coûts, mais on a maintenu quand même cette prestation unanimement. Voilà. Donc sur les propositions de tarifs que nous a fait Madame Tondufe, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Monsieur Leclerc, l'approbation donc d'une convention d'enfouissement du réseau aérien de télécommunications.
Dans le cadre de la modernisation du réseau électrique basse tension et d'un projet d'aménagement esthétique, le syndicat des énergies de la Creuse va procéder en 2023 à l'enfouissement des réseaux aériens de la rue de Pomeille pour le compte de la ville de Guéret. Conformément à la convention cadre locale pour l'enfouissement coordonné des réseaux aériens de télécommunications électroniques de Orange et des réseaux aériens de distribution d'électricité établis sur support commun du 19 mars 2015, ça c'est la convention, conclue entre Orange et le syndicat, ce dernier est désigné pour assurer la maîtrise d'ouvrage des études d'exécution et des travaux de génie civil des réseaux de communications électroniques appartenant à Orange. En effet, la convention tripartite relative à la rue de Pomeille, jointe en annexe, visant à préciser l'organisation technique et financière de l'opération, a été établie. La prise en charge de la commune s'élève à 18% des prestations d'études et de câblage relatives au réseau Orange, soit la somme de 3 571,02 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention tripartite et d'autoriser Madame le maire à la signer ainsi que tout document nécessaire à l'aboutissement de ce dossier. Y a-t-il des questions ?
Donc c'est les premiers travaux de cette fameuse rue de Pomeille, sur laquelle...
Voilà, c'est le préalable à l'aménagement de la rue de Pomeille, l'enfouissement des réseaux, qui va durer à peu près 6 mois. Et qui sera qui permettra ensuite l'aménagement de la rue. Bon. Ça va durer en tout à peu près 1 an, puisqu'il faut d'abord enfouir les réseaux, passer toutes les gaines nécessaires au raccordement de toutes les maisons, et ensuite déposer l'ancien réseau, qui est sur poteau béton, partout, avant de vraiment attaquer la réfection de la chaussée des trottoirs. Et ça, qui est un projet de la ville. Voilà.
C'est important pour les habitants de la rue de Pomeille qui écouteront peut-être ce conseil municipal. Avez-vous des questions sur ce dossier ? Donc des oppositions, des abstentions ? Merci. Monsieur Baillet. Alors déjà une cession de parcelles.
Cession des parcelles AB165 et 269. La ville de Guéret est propriétaire des parcelles cadastrées section AB165 d'une superficie de 755 m² et AB 269 pour une superficie de 599 m² située allée des Écureuils à Guéret. Elles ont été acquises au consort Barbe au terme d'un acte authentique du 30 septembre et du 2 octobre 2008, enregistré par maître Cerclier. L'emprise relève du domaine privé de la commune et a été évaluée à 13 200 euros par les domaines. Par courrier du 4 juillet et du 4 novembre 2022, M. Benoît Grandeau a fait savoir qu'il souhaitait se porter acquéreur de l'emprise foncière des parcelles pour un montant de 22 000 euros. Il est proposé au conseil municipal de céder les dites parcelles.